Il est 8h.
Le fait de dégager son nez de l'écran, d'avoir quelqu'un en face de nous, ça fait un bien qu'on ne soupçonne même plus. C'est beaucoup plus interactif et ça nous fait avancer.
Des étudiants qui retrouvent une saveur oubliée, celle des cours, dans une salle, au milieu de leurs camarades en chair et en os. Une prof de fac a désobéi au protocole en vigueur pour réagir face au plongeon du moral de ses élèves. Cette solitude, un phénomène suffisamment préoccupant pour qu'Emmanuel Macron s'en saisisse aujourd'hui même. Déplacement tourné vers l'avenir, celui des jeunes et celui de la science. La France veut son ordinateur quantique, un joujou à presque 2 milliards d'euros sur 5 ans, indispensable d'un point de vue stratégique. Trois anciens présidents américains dans ce journal. À eux seuls, ils comptent pour un quart de siècle de l'histoire des États-Unis. Obama, Bush et Clinton affichent leur soutien à Joe Biden. Et puis un livre historique, mais nauséabond, annonciateur des pires atrocités, Mein Kampf, bientôt réédité en français, 1000 pages, dont la moitié seront consacrées à la critique du texte d'Hitler.
Juste après ce journal, la pandémie qui interroge nos valeurs, à force d'être prise en charge, pris par la main, sommes-nous déresponsabilisés? Le risque n'est-il pas de désapprendre la liberté? Mathieu Laine, entrepreneur, essayiste libéral, auteur d'Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien aux presses de la Cité. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a eu les alertes des psychologues et des psychiatres, il y a eu ces messages en cascade sur les réseaux sociaux, il y a eu l'appel des présidents d'université à se saisir d'urgence du mal-être de leurs étudiants. Mais jusqu'à présent, c'est la catégorie de la population qui subit peut-être le plus durement l'injustice de cette crise sanitaire.
Des étudiants pour qui les cours se passent sur un écran, il n'y a quasiment plus de petits boulots et donc plus de revenus. Et cette solitude trop forte, une prof de fac de Lorient a voulu la contrer. Quitte à désobéir aux règles, elle s'est confiée à Diane Berger pour Europe 1.
J'avais cours avec des licences. Je leur ai dit, écoutez, moi, je sais pas comment vous êtes, mais je n'en peux plus de cette situation. Et ils m'ont dit, on veut revenir en présentiel.
C'était le déclic la semaine dernière. Alors, en quelques jours, Florence Gourlet s'organise. Cette professeure de géographie réserve des salles d'université. Sans mentir, en précisant bien que c'est pour faire cours, sa direction ne réagit pas. Et elle invite les élèves qui le souhaitent à revenir en amphi.
Il y avait une cinquantaine d'étudiants inscrits à ce cours. J'en avais 35 en présentiel et 22 sur l'écran, en distanciel. On était dans une salle de 90 places. Tout le monde avait son masque. J'ai fait un cours complètement ordinaire, quoi, et ça s'est devenu quelque chose d'extraordinaire.
Des cours comme ça, elle en organise maintenant pour tous ses élèves, licence comme master. Et c'est un soulagement pour Léa, l'une de ses étudiantes. Quand elle suit un cours à distance, elle décroche en général en moins d'une heure.
Le fait de dégager son nez de l'écran, d'avoir quelqu'un en face de nous, ça fait un bien qu'on ne soupçonne même plus. C'est beaucoup plus interactif et ça nous fait avancer.
La direction de l'université n'approuve pas du tout cette démarche et signale que l'enseignante s'expose à une sanction disciplinaire. Mais Florence Gourlet compte bien continuer. Elle se dit même prête, s'il le faut, à organiser ses cours en dehors de la fac.
Un reportage de Diane Berger pour Europe 1.
Et si on en parle ce matin, c'est qu'Emmanuel Macron veut agir. Il va rendre visite à des étudiants sur le campus de Paris-Saclay aujourd'hui. Il va échanger avec eux à la maison des étudiants.
Et il a commencé à le faire d'ailleurs. Une étudiante de Sciences Po Strasbourg l'avait interpellée par une lettre. Une bouteille à la mer, écrivait Heidi Soupeau. À 19 ans, j'ai l'impression d'être morte. Le président de la République lui a répondu. Et ce matin, elle nous a confié sur Europe 1 ce qu'il lui avait dit.
La lettre est assez longue pour dire, si j'y résume, qu'en gros, il a compris les étudiants, il a compris les difficultés de la situation, mais qu'il faut tenir. Ce qui signifie qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer pour nous, malheureusement. Du coup, bon, j'avais un peu beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que lire la lettre, ça m'a vraiment miné le moral, parce que est-ce qu'il nous a vraiment compris? C'est juste plus possible, en fait. On peut plus tenir. Enfin, l'idée de repasser le second semestre comme j'ai passé le premier semestre, c'est juste impossible et ça fait vraiment peur, honnêtement.
Heidi Soupeau, qui était l'invité de Sébastien Krebs à 6h40 sur Europe 1.
Alors, on suivra les réponses d'Emmanuel Macron aux étudiants. Mais si le président se rend sur le campus de Paris-Saclay, c'est au départ pour une histoire d'atomes, d'ions, de photons et d'électrons.
Oui, on est ici dans l'infiniment petit. Il s'agit d'accélérer sur le développement de l'ordinateur quantique. Alors, on a besoin de comprendre. Clément Le Saffre, vous allez nous expliquer cette technologie dont la France veut être un leader.
Oui, l'Elysée vise la place de numéro 3 mondial de la recherche quantique derrière les États-Unis et la Chine. Pour ça, l'État va mettre 200 millions d'euros par an sur la table lors des 5 prochaines années, contre 60 millions aujourd'hui. Objectif, accélérer la conception de l'ordinateur quantique, qui représente aujourd'hui la nouvelle frontière technologique. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui utilise les règles de la physique quantique pour faire ses calculs. Il va donc beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique et permet de réaliser des simulations à grande échelle, extrêmement précises. Les applications sont multiples. multiples, biologie moléculaire, fission nucléaire, analyse financière ou encore prévision météo, sauf que les ordinateurs quantiques sont encore théoriques car leur fabrication est très complexe, ils ne peuvent fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Pour concrétiser ce projet, l'Elysée mise donc sur une alliance entre l'État, la recherche et les entreprises. Les industriels, notamment Atos, Thales et Air Liquide, vont investir 550 millions d'euros. L'Union européenne, elle, ajoute 200 millions. Au total, c'est donc 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qui est mobilisé pour que la France garde la main sur une technologie stratégique.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Et Nicolas Barré nous disait à 7h15 dans son éclairage éco, les pays qui maîtriseront l'informatique quantique posséderont une avance décisive sur les autres.
Et on note par ailleurs ce matin cette petite phrase d'un ministre plutôt peu connu de son poste à Bercy où il gère les comptes publics. Olivier Dussopt le dit, si 2021 marquera la fin de la pandémie comme tout le monde l'espère, il faut aussi que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte. Déclaration dans les échos, Olivier Dussopt nous prépare ainsi à l'extinction des aides massives.
8h06 sur Europe 1 et voici l'ambiance du côté de Washington cette nuit.
On n'avait pas dansé du côté du Capitole, il faisait nuit, il faisait froid. Demi Lovato était en concert, mais aussi Bruce Springsteen, Bon Jovi, John Legend, au programme du show animé par Tom Hanks. Il y avait aussi les trompettes de l'armée et un feu d'artifice. Une vraie fête d'investiture pour Joe Biden.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
On a vu aussi un symbole très fort d'unité politique.
Oui, c'est une image rare et symbolique. Trois anciens présidents, tous de noir vêtus, réunis dans une vidéo pour appeler à l'unité. Le républicain George W. Bush s'est voulu rassurant alors que le pays est extrêmement divisé.
Je pense que le fait que nous soyons tous les trois ici présents pour parler d'un transfert pacifique du pouvoir prouve l'intégrité des institutions de notre pays.
Le démocrate Bill Clinton, qui a travaillé avec Joe Biden lorsque ce dernier était sénateur, a souligné le caractère exceptionnel de cette époque.
C'est une époque extraordinaire. Nous sommes à la fois en train de tenter un retour à la normale, de faire face à des défis complètement anormaux et faire ce que nous faisons le mieux, rendre notre union plus parfaite. C'est vraiment excitant.
L'ancien président Barack Obama, grand complice de Joe Biden, son ancien vice-président, qu'il appelle affectueusement Joe, a demandé aux Américains de travailler ensemble malgré les différences.
Ne parlons pas seulement avec ceux qui ont les mêmes opinions que nous, mais aussi avec les autres.
Le grand absent, c'était évidemment Donald Trump, qui a boudé la cérémonie d'investiture et n'a jamais appelé Joe Biden pour le féliciter. Mais selon le président américain, son prédécesseur lui a laissé une lettre très aimable à la Maison-Blanche.
Eh ben on aimerait bien la lire, cette lettre. Merci Sonia Dridi, en ligne de Washington pour Europe 1. Premiers actes de président pour Joe Biden et première réaction internationale. Le Mexique salue l'arrêt de la construction du mur à la frontière américaine. Le Canada se dit déçu du blocage d'un projet d'oléoduc. Emmanuel Macron se réjouit, lui, du retour de l'Amérique dans l'accord de Paris sur le climat. Welcome back, tweet le président français.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Ne les appelez plus stations de ski, mais plutôt stations de luge, stations de raquettes. C'est plutôt la réalité de cette saison, évidemment. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Le gouvernement a tranché, pas de réouverture, de redémarrage des remontées mécaniques dans les stations de ski au 1er février. Mais cette saison aura tout de même profité à des stations spécialisées dans le ski nordique. C'est le cas du plateau de Baye en Ariège, où s'est rendu Benjamin Péter.
Ça commence à venir là. Je tombe plus que deux ou trois fois par descente.
Régine est une habituée du ski alpin. Elle en fait depuis toute petite, mais pour la première fois, elle essaye le ski de fond.
On apprend. C'est beaucoup plus sportif que ce que je pensais. J'ai plus de facilité quoi, en ski alpin. Parce que là, de se retrouver débutant à plus de 50 ans, c'est dur.
Comme elle, ils sont très nombreux à louer des raquettes, des skis de randonnée, des luges. Alors Yves, qui habite la vallée, n'a jamais vu autant de monde sur le plateau.
Je suis venu hier, je suis venu aujourd'hui. J'ai dit je serai tranquille. Quand on arrive sur les parkings, tout ce monde, il y a un monde de fou. Moi, j'en reviens pas. Je suis venu mercredi. Dernier, il y avait du monde comme ça, quoi. C'était un truc de dingue, quoi.
Pour Georges Vigneault, le directeur de la station, cette affluence est devenue difficile à gérer.
Aujourd'hui, je pense qu'on dépasse les 1200 forfaits. Les semaines comme on a maintenant, ce sont des semaines qu'on vit pendant les vacances de février. On n'est plus en mesure, à un moment donné, d'assurer un service de qualité aux personnes qu'on accueille.
Et pour réguler le flux, à trois reprises déjà, dont samedi dernier, il a été contraint d'interdire la route qui mène à la station en milieu de journée. Au plateau de Baye, Benjamin Péter, Europe 1.
On va terminer ce journal avec ce qui est sans doute le livre le plus sulfureux au monde. Mais c'est aussi, malheureusement, un morceau d'histoire. Mein Kampf, le pamphlet antisémite d'Adolf Hitler qui va être réédité en français cette année.
Oui, ce sont les éditions Fayard qui l'annoncent sans préciser la date exacte. Il faut dire, il faut préciser que le texte est tombé dans le domaine public il y a maintenant 5 ans. Nicolas Caro.
Mein Kampf, c'est le programme d'Hitler. Il l'écrit en prison en 1924 après son putsch raté. Il y déverse sa haine des Juifs et de ceux qu'il désigne comme les ennemis de l'Allemagne. Manifeste raciste, l'ouvrage n'est pas interdit en France, pas du tout, mais c'est un livre qui brûle les doigts, évidemment. Il est très difficile de le trouver dans une librairie. Inutile de le chercher à la 25e heure, par exemple, à Paris. Didier Rossillon, le libraire.
Si un client arrive et me demande Mein Kampf, je lui dis je ne l'ai pas en magasin et je lui dis de se le procurer auprès de l'éditeur, mais moi je ne le commande pas. Pour moi, ça n'a pas été un sujet depuis une éternité. Donc est-ce que ça va le devenir quand on va avoir la presse qui va arriver sur ces nouvelles publications Fayard? Peut-être. Pour l'instant, non.
Et oui, parce que Fayard ne publiera pas le livre tel quel. 1000 pages dont la moitié est en fait un appareil critique rédigé par des historiens. La version polonaise vient de sortir. Une autre édition critique a été publiée en 2016 en Allemagne. Le livre s'était vendu à 100 000 exemplaires.
Les explications détaillées de Nicolas Caro sur cette réédition de ce livre très particulier, Mein Kampf, en 2021.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.